Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Les cultes de baptême, c'est toujours long, un peu plus long parce qu'on met un peu plus de choses, mais c'est vécu avec joie, on aime ça. Et ça ne nous semble pas pertinent de gagner du temps en supprimant la prédication parce que nous croyons que la parole de Dieu est bonne pour nous, qu'elle est bonne pour nous aujourd'hui, que malgré le fait qu'elle ait été écrite il y a plusieurs siècles, elle est encore pertinente pour nous apprendre des choses, pour nous guider dans notre vie, pour nous amener plus loin. Ce matin, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, au début de l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre en même temps que je lis, sinon vous pouvez m'écouter. Évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu ?» Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël reprit « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jusqu'ici notre lecture. Alors, je disais que nous croyons que la Bible est pertinente pour nous aujourd'hui, mais je crois quand même que notre lecture nécessite quelques explications, qu'on ne peut pas forcément tout prendre comme ça et être nourri, stimulé par cette lecture. Un dialogue un peu étrange. Et on va prendre le temps de décoder. Il y a trois personnages dans ce récit que nous avons lu, trois personnages, Jésus, qui est là, qui traverse tous les évangiles, le personnage central de l'évangile, celui autour duquel tout tourne, et puis Philippe et Nathanaël. Philippe, c'est un des 12 disciples, un des 12 apôtres. Voilà, on le sait, il est là, il est dans les listes des apôtres, mais il n'a pas un rôle très important. On connaît Pierre, on connaît Jean, on connaît André. Mais Philippe, il passe un peu plus inaperçu. On le voit deux fois dans l'évangile de Jean, mais pas plus. Et Nathanaël, j'ai envie de dire, on en sait encore moins de lui. Alors peut-être c'est l'un des 12 disciples. Il n'apparaît pas dans les listes, mais les commentateurs pensent que Barthélemy, ça pourrait être Nathanaël. C'est une hypothèse, mais c'est tout ce qu'on a sur lui. Et pourtant, de ces deux personnages assez peu importants, il a paru important à l'évangéliste Jean de nous rapporter ce récit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue là qui a pu paraître intéressant pour Jean pour que les générations à venir soient au courant? Au départ de l'action, on a Philippe qui va voir Nathanaël. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux. Peut-être se connaissent-ils, et peut-être que Philippe va vers son ami pour lui présenter Jésus. Peut-être c'est simplement parce que, en nouveau disciple zélé, il a envie de partager ce qu'il a, hein, de faire, comme on dit, faire de l'évangélisation, partager. Et il tombe sur Nathanaël et il lui dit ce qu'il a à lui dire. Ça fait penser à ce que disait Sandra tout à l'heure, hein, dans la louange qui nous a fait méditer là-dessus. Quand on a une bonne nouvelle, on la partage. Et c'est exactement ce que fait Philippe. Il a une bonne nouvelle, il tombe sur Nathanaël, qu'il le connaisse ou pas, il le partage. Et il lui dit, celui dont Moïse dans la loi et les prophètes ont parlé, nous l'avons trouvé. Et il faut savoir que à cette époque, au 1er siècle, en Palestine, il y a une forte attente de celui qui doit venir. Le climat est lourd, avec une occupation par les Romains qui est compliquée. Et voilà, l'ambiance, les réflexions théologiques portent sur les prophètes qui annoncent quelqu'un à venir. Et donc, tout le monde attend celui qui doit venir. Tous ceux qui s'intéressent un peu à Dieu, aux écrits, attendent celui qui doit venir. Et Philippe va donc voir Nathanaël pour lui dire, celui-ci, nous l'avons trouvé. Et la réponse de Nathanaël, je ne sais pas si vous en revenez, elle est un peu désarçonnante. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Oups. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Qu'est-ce que c'est que cette réponse ? Ceux qui étudient la parole savent que le Messie doit venir de Bethléem. Mais la réponse n'est pas liée, parce que si c'était ça, il aurait été facile de répondre à Nathanaël, non, mais en fait, il est né à Bethléem, tout ça. Je crois qu'il y a des préjugés, tout simplement, de base, sur la ville de Nazareth. Nazareth, c'est dans la province, dans la région de Galilée, qui a une mauvaise réputation. Les Galiléens, c'est des gens mal dégrossis. Et Nathanaël vient de Galilée, mais on se rend compte que même dans la Galilée, d'une ville à l'autre, on s'envoie des vannes. On peut facilement le comprendre, hein, aujourd'hui encore, si on habite en province, Paris, c'est des gens qui sont trop speed, ou alors si on habite dans des grandes villes, on va facilement parler des bouseux qui habitent en province. En bon français, on aime se moquer des Belges et des Suisses qui nous le rendent bien. C'est facile d'avoir des préjugés sur les lieux. Et là, pour Nathanaël, ben, Nazareth, il ne peut rien venir de bon. Et la réaction de Philippe, elle est remarquable. Plutôt que d'essayer d'entrer dans un débat, d'essayer de convaincre, il lui dit, viens voir. Vient voir, et Nathanaël est sceptique, mais il vient voir. Il va vers Jésus, et quand il va vers Jésus, le texte nous rapporte que Jésus a cette parole, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a aucune ruse. » C'est quoi cette remarque de Jésus ? Jésus affirme deux choses, que c'est un véritable Israélite et qu'il n'y a aucune ruse. Alors, sur cette question, un véritable Israélite, dans ce que j'ai lu, je me rends compte qu'il y a une difficulté de traduction. Toutes nos traductions de Bible traduisent comme ça, un véritable Israélite. Pourtant, le grec semble dire, c'est vraiment un Israélite. Et du coup, je pense que c'est pas là, sur cette partie de la déclaration de Jésus, qui est le plus important. Jésus dit, bah voilà un Israélite, et les commentaires font remarquer que c'est comme ça que les gens de ces pays s'appelaient, salut Israélite, un peu avec une fierté. C'est pas là qu'est l'important. L'important est dans la deuxième partie de l'affirmation de Jésus, en qui il n'y a aucune ruse ou d'une parfaite droiture dans d'autres traductions. C'est certainement cette affirmation qui fait réagir Nathanaël. Peut-être que Jésus veut dire que Nathanaël, c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement, quelqu'un qui examine les choses plutôt que se baser sur des préjugés. Et la suite du texte présente Nathanaël un peu comme ça. Mais en tout cas, je pense que dans la bouche de Jésus, c'est un compliment. Mais le compliment, Nathanaël trouve qu'il est louche. Hein. « D'où me connais-tu » répond-il. « D'où me connais-tu » Je ne sais pas comment vous recevez cette question. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que Nathanaël, il est très prudent. Déjà, il vient de Nazareth. Il a des a priori. Mais ensuite, il arrive, il fait un compliment complètement gratuit alors qu'il ne me connaît pas. Ce gars-là, il attend quelque chose de ma part. Hein ? Peut-être qu'il veut m'embrigader, que je suive à son tour et qu'il me fait des compliments pour cela. D'où sa prudence ? D'où me connais-tu ? Et là, Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et c'est la phrase qui fait mouche, celle à laquelle l'armure de Nathanaël se fend. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier pour que Nathanaël reçoive cette parole comme ça ? On ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Alors, les commentaires font remarquer que dans la littérature rabbinique, l'ombre du figuier, c'est le lieu où on étudie la parole de Dieu. Peut-être que ça fait référence au temps que Nathanaël a passé devant Dieu à méditer la parole, à prier, mais rien ne nous l'indique. Et même si c'était le cas, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce temps personnel devant Dieu. Mais dans ce temps, sous le figuier, Nathanaël pensait être à l'abri des regards, pensait être dans son intimité. Et le fait que Jésus soit au courant, qu'il lui dise, eh bien, il se sent découvert, mis à nu. Et du coup, il a cette déclaration de foi. Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Il s'est vraiment passé un truc à ce moment-là. Une rencontre profonde. Et Nathanaël fait le lien entre ce que lui dit Jésus et ce que lui a déjà dit Philippe, qui lui dit « c'est celui dont a parlé Moïse, dont ont parlé les prophètes ». Et va plus loin dans sa compréhension. « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Et par ces mots, lui, un Israélite, il reconnaît l'autorité de Jésus. Et en la reconnaissant, il s'y soumet. Car si on est cohérent, si en nous il n'y a aucune ruse, quand on reconnaît à quelqu'un le titre de fils de Dieu, on se soumet à son commandement. Il fait le premier pas pour devenir un disciple par cette déclaration. Ce que je trouve intéressant, c'est que le récit ne s'arrête pas là. Jésus rajoute une couche. « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» Tu verras des choses encore bien plus grandes. J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que je trouve que il est taquin. Il est espiègle. Il y avait ce gars qui vient le voir, qui est sceptique, qui y va doucement. Et par cette parole, il le décoince. Et le gars, il croit. Et Jésus lui prend les choses à l'envers. Et il lui dit, mais je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit, t'as rien vu. Et tu crois alors que t'as rien vu. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous avez remarqué qu'on passe à la deuxième personne du pluriel. Jésus parle à Nathanaël, mais pas seulement à lui. Il parle aussi aux autres disciples qui sont là, Philippe, peut-être Pierre et André qui viennent d'être recrutés juste avant. Puis si on connaît un peu l'évangéliste Jean, hein, on sait qu'il nous parle à nous aussi, les lecteurs, les disciples à venir, ceux qui suivent. Vous verrez le ciel ouvert. Nathanaël verra, ils verront, nous verrons des choses bien plus grandes. Quand Jésus parle de ciel ouvert, d'anges qui montent et qui descendent, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une vision à prendre au sens propre, parce que si c'est effectivement ce qu'avait vu Nathanaël, l'évangéliste Jean nous aurait parlé du temps de cette vision plus tard. Non, je pense que là, ce que dit Jésus, c'est qu'ils vont voir des choses telles qu'il n'y aura aucun doute possible. C'est la confirmation divine que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Ils le croient aujourd'hui avec cette parole légère. Mais ils verront des choses bien plus grandes s'ils continuent à le suivre. Des choses qui rendront incapables de douter. Ils verront toutes sortes de miracles. Ils verront des vies transformées. Nathanaël est venu voir par curiosité, sur l'invitation de Philippe, peut-être pour lui faire plaisir, peut-être parce qu'il voulait qu'il le laisse tranquille, parce qu'il était trop insistant. Il est allé voir Jésus, il a rencontré quelqu'un qui le connaissait. Qui le connaissait d'une connaissance surnaturelle et il a accepté de reconnaître le Fils de Dieu. Mais surtout, il est parti pour une nouvelle aventure avec des choses plus grandes à venir. Je disais en introduction que nous croyons que les récits bibliques ont des choses à nous enseigner pour nous aujourd'hui. Alors là, on a vu une belle histoire, l'histoire d'une rencontre, mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que nous avons dans ce récit deux modèles. Deux modèles qui nous montrent comment nous comporter. Alors, je mets Jésus de côté, notre Seigneur. Il y a Nathanaël et Philippe. Et Nathanaël est pour nous un modèle dans l'approche de Jésus. Peu importe les idées que nous avons au départ, peu importe ses idées de départ, il vient voir par lui-même. Il est prudent, plein de scepticisme, mais il vient voir. Et quand Jésus fait mouche, le touche là où c'est pertinent, il ne s'enfuit pas. Il ne lutte pas contre ce qu'il ressent. Et je crois que nous sommes invités à faire pareil. La Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le roi d'Israël et des nations. Et non seulement il est roi, mais il est vivant aujourd'hui. Il agit dans le monde par son esprit. Il est présent dans son Église. Son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Sarah nous l'a rappelé en ouverture, qu'il est présent là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Il est au milieu de nous et il vient nous rencontrer. Et quand on s'approche de lui, comme Nathanaël, on peut recevoir une parole qui fait mouche. Nous pouvons avoir été touchés par quelque chose qui est dit dans une prédication, quelque chose qu'on entend dans un chant, par une prière, par une conviction qui nous vient, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on ressent parfois, physiquement, en soi, qui nous pousse, qui nous donne envie de répondre oui. Que faire dans ce cas-là? Que faire quand on ressent une conviction forte, quelque chose qui me dit « il faut que j'y aille, il faut que je fasse, il faut que je réponde ». On peut rester dans son scepticisme, on peut dire « non, c'est pas possible, ça va passer, j'y réfléchirai plus tard ». Ou alors nous pouvons faire comme Nathanaël et accepter de dire à Jésus « tu es Dieu ». La conversion, quelque part, c'est une défaite. C'est rendre les armes devant Jésus, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est roi. Ça demande du courage de reconnaître sa défaite. Et Nathanaël a eu le courage de le faire. Il nous montre un exemple. Aurons-nous le même courage ? Le deuxième modèle dont nous pouvons nous inspirer, c'est Philippe. Alors Philippe, il est à une autre étape de son parcours spirituel. Lui, il a rencontré Jésus, il est enthousiaste, il a envie de partager ce qu'il vit, de voir d'autres personnes rejoindre la troupe et suivre Jésus. Et peut-être c'est votre cas parce que suivre Jésus vous apporte tellement de sens que vous voulez le partager. Vous vous demandez comment convaincre d'autres personnes. Je remarque que Philippe ne convainc pas Nathanaël. Il essaye. Peut-être il assiste un peu, hein, le récit biblique est très ramassé et peut-être qu'il y a d'autres choses qui s'est passé, mais quand ça ne passe pas, quand il est à court d'arguments, eh bien, il amène à la source. Il amène à Jésus lui-même. Il n'essaye pas de tout faire tout seul. Il amène à Jésus. Et la suite du récit montre qu'il avait raison de procéder ainsi parce que c'est Jésus qui va convaincre Nathanaël lui-même. Et je crois qu'il y a là une invitation pour nous aussi à amener nos amis à Jésus. Jésus, nous croyons qu'il vit. Nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui. C'est ce que nous confessons, c'est ce que nous chantons dans les premières parties de culte, dans la louange. Prouvons-le. Prouvons-le dans nos actes. Comment faire? Comment faire aujourd'hui où Jésus n'est plus là physiquement? Nous pouvons mettre nos amis en contact avec la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus, il parle, il touche les lecteurs. C'est très important, mais la Bible elle-même montre dans ses récits la nécessité d'être en contact avec d'autres, avec des croyants qui vont expliquer et qui vont montrer comment comprendre la Bible. Aussi, nous pouvons les amener à l'église pour écouter la parole prêchée, pour assister à la louange et voir le peuple de Dieu qui se réjouit devant lui, pour goûter à la communion fraternelle, pour voir tout ce qui pointe vers Jésus. Nous pouvons les amener et laisser Jésus agir lui-même. J'insiste là-dessus. Si nous croyons qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est tout-puissant, est-ce que nous ne devrions pas le laisser agir et lui en donner la possibilité? Et je suis étonné de constater que certains ont été amenés à l'église par des amis et qu'au bout d'un temps, ils viennent me voir comme Matthieu l'a fait pour dire « Je réfléchis au baptême, j'aimerais me faire baptiser. Ce Jésus dont vous témoignez, je veux le suivre. » Des gens auprès de qui on n'a pas particulièrement insisté, mais qui ont rencontré Jésus et qui veulent le suivre. Et quand je vois mon étonnement, je me dis quand même que je manque un peu de foi. Je ne devrais pas être étonné. Nous ne devrions pas être étonnés de voir ça. Peut-être que ces choses-là, ça fait partie de ce dont Jésus parle dans le texte que nous avons lu quand il dit « Vous verrez des choses encore plus grandes. » Quand on marche avec Jésus, on voit des choses encore plus grandes et on le voit agir et on voit des vies transformées. Des choses sur lesquelles on n'a pas particulièrement agi et qui se passent, et on ne peut que voir que c'est lui qui agit comme il l'a promis, comme on le confesse, et voir Dieu agir. C'est immense. C'est une joie sans cesse renouvelée. Deux modèles, donc, qui nous viennent de ce récit. Un récit où on voit autour de Jésus toutes sortes de personnes. Il y a des gens convaincus, puis il y a des curieux qui viennent là pour voir, qui sont un peu sceptiques. Et Jésus accueille tout le monde. Il y a la place pour tout le monde, où qu'on en soit, qu'on soit un croyant bouillant ou quelqu'un qui est encore prudent, curieux, soyez les bienvenus. Jésus est vivant encore aujourd'hui. Il veut vous rencontrer encore aujourd'hui. Alors, allons à sa rencontre, que nous soyons curieux, que nous ayons des amis avec qui nous voulons partager cette bonne nouvelle. Amenons-les à la rencontre de Jésus. Et si vous ne le connaissez pas encore, laissez-vous interpeller par l'attitude de Nathanaël, l'attitude courageuse de Nathanaël qui accepte de rendre les âmes quand il est touché par la parole de Jésus. qui décide de marcher avec lui.